depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, pour être précis, un phénomène que j'avais oublié depuis longtemps a fait son grand retour dans notre maison. Il s'agit d'un phénomène quotidien, ou presque, qui a traumatisé des générations et des générations de personnes. On m'avait dit que cela avait changé, que cela n'existait plus, du moins pas sous cette forme, et pourtant je vous assure, cela existe toujours, exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Car j'ai oublié de vous le préciser, ce phénomène est directement lié à l'enfance, ou plus précisément à la scolarité. Et oui, depuis septembre, notre petit Yvon a fait sa rentrée au CP. Et avec elle, on fait leur grand retour dans notre réel d'adulte, le cartable, la trousse, le cahier de correspondance et surtout les devoirs. Les devoirs, oui, au CP, tous les soirs. Les devoirs de lecture, consonne après consonne, voyelle après voyelle, syllabe après syllabe, tous les sons y passent. C'est à ce prix qu'on apprend à lire. Les chiffres également sont de la partie. On les découvre, on les assemble, on les compile dans tous les sens. À chaque typologie d'exercice correspond un cahier de couleurs différent. Et il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le cartable de Lison. Et nous ne sommes qu'au début du processus, car bientôt les apprentissages seront de plus en plus techniques, dans tous les domaines. Quel vertige! La différence, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus à moi d'apprendre. Heureusement. Moi, je dois aider à apprendre. Du moins certains dimanches soirs. Car le reste de la semaine, je dois bien l'avouer, c'est plutôt Valérie qui s'y colle. Mais mon tour revient régulièrement. Et je vois venir le jour où ce qu'il me reste de notions de grammaire ne suffira plus. Il faudra alors que je révise à mon tour pour être à la hauteur. Pas facile, n'est-ce pas? C'est pourquoi ce matin, je vais vous demander de bien vouloir m'aider à jouer mon rôle de papa, qui a besoin de réviser ses fondamentaux en grammaire et en français. Ce matin, je vous propose que nous choisissions un texte très court de la Bible, pas plus de 20 mots, promis. Nous l'étudierons sous un angle grammatical, en tout cas, nous prêterons une attention particulière aux mots, et à la façon dont ils sont positionnés, intriqués les uns avec les autres. Nous ferons attention à leur signification aussi. Ce sera l'occasion pour moi de me refamiliariser avec certaines notions que mon cerveau s'était empressé d'oublier. Et qui sait, au-delà d'une simple révision, peut-être que cet exercice grammatical nous permettra tous ensemble de découvrir ou de redécouvrir certaines vérités profondes qui pourront nourrir notre vie de chrétien. Mettre en évidence trois notions de grammaire pour découvrir trois vérités bibliques qui se cachent derrière, c'est notre programme d'investigation pour la prédication de ce matin. Je vous invite à lire un très court extrait d'une épître pastorale. Il s'agit de la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 6, le verset 6. Que le Seigneur nous accorde son aide pour que nous soyons attentifs aux messages nichés au creux de sa parole. 1 Timothée 6, verset 6, je lis dans la version en français courant. Certes, la foi est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Je vous avais prévenu. Il s'agit d'un extrait très court. Nous pouvons le relire. Certes, la foi est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. J'ai redécouvert ce passage de l'Écriture en parcourant un recueil de versets à lire quotidiennement qui s'appelle « Les promesses de la Bible pour vous ». J'avais déjà eu l'occasion de le lire, mais je n'y avais pas prêté d'attention particulière, noyé qu'il était dans le développement plus global que Paul fait sur les fausses doctrines et les vraies richesses, au chapitre 6 de son épître. En lisant ce verset de manière isolée, quelque chose m'a sauté aux yeux. Il ne vous a pas échappé que le texte comporte deux idées. Première idée, la foi est une grande richesse. Deuxième idée, il faut se contenter de ce que l'on a. Voilà deux idées qui sont relativement admises, en tout cas que nous avons déjà entendues, et sur lesquelles nous reviendrons dans un moment. Ce ne sont pas ces deux idées qui ont premièrement attiré mon attention. Ce qui a provoqué ma curiosité, c'est le lien conditionnel entre les deux. Ce tout petit mot, ce « si », conjonction de subordination, qui oriente la bonne compréhension de la phrase. Il exprime le fait qu'une des deux affirmations ne peut se réaliser qu'à condition que la première affirmation se réalise elle-même. La foi est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Ce qui est remarquable dans cette subordination entre les deux idées, c'est qu'elle décrit un lien conditionnel qui est l'exact inverse de ce que l'on pourrait imaginer. Paul ne nous dit pas « ta foi t'aidera à trouver le moyen de te contenter de ce que tu as ». Il nous dit au contraire « si tu te contentes de ce que tu as, alors tu pourras percevoir la richesse de la foi ». Est-ce bien de cette manière que nous vivons notre foi, frères et sœurs ? On présente souvent la foi comme un moyen de donner du sens dans un monde qui ne nous contente pas pleinement. La foi en une justice divine, la foi en l'au-delà, la foi dans l'idée que notre existence a un sens, autant d'utilisation de la foi pour supporter l'insatisfaction liée à nos contingences matérielles, pour supporter notre insupportable condition humaine. La foi est alors utilisée comme un opium du peuple, une drogue qui anesthésie notre douleur, qui détourne notre attention de la réalité, qui amenuise notre lucidité sur la condition de la vie, qui endort notre capacité d'indignation. Est-ce cela notre foi? Si c'est le cas, nous raisonnons à l'inverse de ce que nous dit Paul. Pour Paul, la foi n'est pas seulement un moyen pour tenir bon dans ce monde. Pour Paul, la foi est l'objectif, la foi est la cible, et c'est notre capacité à nous satisfaire de notre condition qui devient le moyen. Voilà qui bouleverse complètement notre lecture des choses. Avec une simple conjonction de subordination, voilà deux idées bien familières qui se retrouvent articulées l'une avec l'autre, à l'inverse de notre façon naturelle de raisonner. La foi est la cible, la capacité à se contenter de ce que l'on a et le moyen. N'avons-nous pas tendance à confondre la cible et le moyen? Quelle différence cela fait-il, me direz-vous? Eh bien, cela change tout. Cela change notre façon de considérer notre existence. Cela change nos objectifs de vie. Cela change le témoignage que nous rendons de notre foi. Cela change notre compréhension du plan de Dieu pour nous, ici et maintenant. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, retenons cette première vérité biblique cachée derrière une subtilité grammaticale. La foi est la cible, la capacité à se contenter de ce que l'on a et le moyen. Venons-en à présent aux deux idées exprimées par Paul. Et puisque nous avons compris qu'il s'agit d'une condition préalable pour tendre vers les richesses de la foi, penchons-nous d'abord sur cette affirmation. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Contente-toi de ce que tu as. Sois heureux tel que tu es. Ça me fait penser à un discours d'un homme politique, local, connu, que j'ai entendu récemment, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, qui concluait « Pour 2020, je vous souhaite d'être heureux, car le bonheur dans la vie, c'est le plus important. » Ça, c'est du lourd. le bonheur dans la vie, c'est le plus important. Sois heureux avec ce que tu as. Quelle banalité. En français, ce genre de sentence qui énonce une vérité évidente est une figure de style que l'on appelle une lapalissade ou encore un truisme. Qu'est-il arrivé à Paul pour qu'il nous balance une banalité pareille ? Contente-toi de ce que tu as. C'est même pire qu'une banalité. C'est un encouragement à l'immobilisme, au fatalisme, voire au cynisme. C'est une renonciation à tout changement en acceptant l'ordre des choses tel qu'il est. Cela nous rappelle la philosophie bouddhiste qui considère que l'on peut atteindre le nirvana, le bonheur absolu, en éradiquant toute forme de désir, toute forme d'affirmation de soi. Plus proche de la pensée occidentale, on retrouve également ce type de raisonnement chez les adeptes du stoïcisme, qui était un courant philosophique d'origine grecque très vivant du temps de Paul. D'ailleurs, Paul a grandi à Tarse, dans une ville de culture grecque, où le stoïcisme avait pignon sur rue. Est-il ici influencé par ce courant de pensée ? Il est vrai que l'on peut trouver un certain nombre de points communs entre la pensée stoïcienne et la pensée chrétienne. À commencer par la défiance vis-à-vis du besoin de posséder. Méfie-toi du besoin de posséder, car la possession appelle à un besoin de posséder encore supérieur. C'est un cycle sans fin. On en veut toujours plus. Je me souviens l'époque où j'étais étudiant. J'ai passé 5 années en CTU, dans une chambre de 9 mètres carrés, à partager la cuisine, les sanitaires, les lieux de vie, avec des dizaines et des dizaines d'étudiants. Ce qui crée une certaine promiscuité, vous vous en doutez. À cette époque, je ne rêvais que d'une chose, avoir ma propre cuisine, avoir ma propre salle de bain, avoir mes propres toilettes. Je rêvais d'un appartement à moi, même un tout petit studio, tant que je pouvais trouver un minimum d'intimité. Puis, en démarrant ma vie professionnelle, j'ai enfin eu mon appartement. Ah, quel bonheur ! Quel bonheur ! Au début, parce qu'au bout d'un moment, j'ai rêvé de plus, j'ai rêvé de mieux. Une pièce supplémentaire, un jardin, une maison. Tout cela, je l'ai aujourd'hui. Mais je me surprends à rêver d'une plus grande maison, avec plus de rangement, dans un quartier plus sympa. La quête de possession est sans fin. Cela est vrai sur le plan matériel. On veut toujours plus d'argent, de confort, de pouvoir. Mais cela est également vrai sur le plan spirituel. On veut toujours plus de maîtrise, de paix intérieure, de confiance en soi. Alors oui, Paul fait ici la synthèse entre la pensée stoïcienne et la pensée chrétienne. Il nous met en garde contre cette quête de possession qui peut nous éloigner des véritables richesses de la foi. Sûrement Paul a-t-il été influencé par son environnement culturel ? C'est inévitable. Mais ce serait mal connaître la pensée de Paul que de voir dans ce passage une simple lapalissade d'influence stoïcienne. Car il existe une différence fondamentale entre le stoïcien et le chrétien. Une différence que je qualifierais de rédhibitoire. Le stoïcien veut vivre en totale indépendance. Il considère qu'il n'a besoin de rien, ni de personne, pour être heureux. Il considère même que cette indépendance, ce repli sur soi, cette autarcie, est la condition pour être heureux. Alors que le chrétien a une perception diamétralement opposée de ce qui est bon pour l'homme. Il a une soif inextinguible de relation. Relation avec Dieu, relation avec le Christ, relation avec les autres. Non, cette pensée de Paul est tout sauf un simple encouragement au repli sur soi et à l'indépendance matérielle et spirituelle. Cela, c'est une pensée typiquement humaine. La pensée qui vient de Dieu va plus loin. La pensée qui vient de Dieu n'est pas fataliste, encore moins cynique. La pensée qui vient de Dieu appelle à reconnaître tout le bonheur que l'on peut tirer d'une relation sincère avec le Christ et avec les autres. La pensée qui vient de Dieu n'encourage pas à adopter une posture d'acceptation passive de notre condition humaine. Elle encourage surtout et avant tout à une posture de reconnaissance. C'est surtout cela que j'entends quand Paul écrit « Contente-toi de ce que tu as ». Sois reconnaissant de ce que tu as. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. J'ai lu il y a quelques années un livre qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Il raconte le témoignage d'une femme à tendance dépressive dont la vie a été transformée par une pratique quotidienne de la prière de reconnaissance. Tous les jours, elle listait sur un carnet toutes les raisons qu'elle avait de remercier Dieu. Et sa perception de la vie en a été radicalement transformée. Je vous encourage à lire ce livre. Il ne s'agit pas d'une énième méthode ésotérique de quête du bonheur. D'ailleurs, à titre personnel, je ne pense pas que la quête du bonheur soit le but ultime de la vie. Mais c'est un propos que je ne développerai pas ce matin, peut-être une prochaine fois. Je dis simplement que cette posture de reconnaissance, de louange, est un moyen de vivre une relation saine avec Dieu. Et c'est ça qui va tout changer. Car celui qui a conscience de ce qu'il a et qui s'en contente, celui qui a conscience que tout ce qu'il a lui a été donné et que rien ne lui appartient véritablement, celui-là change sa perception du monde. Son objectif n'est plus la possession. Contente-toi de ce que tu as, nous dit Paul. Son objectif devient le partage, la transmission. Voilà une posture qui change la vie. Contente-toi de ce que tu as, ce n'est pas l'absence d'ambition, l'absence de projet. C'est l'absence de projet de posséder. Car tous nos projets ont pour objectif le partage, la transmission. À la fois sur un plan matériel, mais aussi sur un plan spirituel. Le partage d'un savoir, d'un patrimoine, d'un message, que sais-je encore. Celui qui a compris ça, celui qui a compris que le bonheur, c'est de ne rien posséder, mais de partager, celui-là peut alors accéder au Graal, au but ultime. Ce Graal, ce sont les richesses qui proviennent de la foi. Nous arrivons à notre troisième et dernier commentaire de ce si court et pourtant si riche verset. La foi est une grande richesse. Voilà une nouvelle tournure de phrase, une nouvelle figure de style que nous pouvons qualifier d'oxymore. Un oxymore, c'est l'alliance de deux mots de sens contradictoire. C'est l'exact opposé de la lapalissade ou du truisme que nous venons de voir. Quoi de plus opposé que le concept de richesse, de gain, de profit, que celui de la foi, dont la portée est éminemment spirituelle et non pas matérielle. Décidément, Paul nous aura régalé de figures de style, au point de nous embrouiller un peu. Et l'embrouille continue quand on se rend compte que, selon la version de la Bible que l'on choisit, le terme grec, eusebia, est parfois traduit par le mot foi, comme dans la version que nous avons choisie ce matin, mais aussi par le mot piété. La piété, la foi, ce sont des concepts bien différents, voire opposés pour nous aujourd'hui. La piété de nos jours est une notion extrêmement morale, qui désigne un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Nous n'aimons pas trop ce mot. Alors que la foi, c'est tout le contraire. La foi, ce n'est pas une pratique, c'est un état d'esprit, c'est un sentiment de confiance dans quelque chose d'impalpable, mais qui pourtant est bien là. La piété, la foi, ce sont deux opposés. Un nouvel oxymore caché dans le texte. Comment allons-nous nous tirer de cette contradiction apparemment fatale? En fait, il faut reconnaître que la langue française, parfois, n'est pas suffisante pour traduire en un seul mot toute la richesse, toute la complexité d'une idée. Certains mots sont carrément intraduisibles. C'est vrai pour les langues vivantes. Essayez de traduire le concept portugais de saudade en français. Vous n'y arriverez pas. C'est le mot nostalgie qui s'en approche le plus, mais il ne dit pas tout. Il est loin de rendre toute la puissance et toute la beauté du concept. Cette insuffisance de la langue française à transmettre certaines idées est encore plus vraie lorsqu'il s'agit de traduire un mot issu d'une langue ancienne, comme le grec du Nouveau Testament. Et qui plus est quand il s'agit d'énoncer une vérité spirituelle particulièrement profonde. Nous nous trouvons face à ce type de difficulté lorsque nous tentons de traduire le mot grec « Eusebia ». Alors désigne-t-il la foi, cette croyance profonde et intangible? Ou bien désigne-t-il au contraire la piété, cette pratique de la religion si visible, si ostentatoire? En fait, la foi et la piété sont les deux facettes d'une même pièce. Les deux ingrédients apparemment opposés, mais en réalité complémentaires, d'une relation intime, sincère avec Dieu. C'est ce qu'écrit Samuel Benetro dans son commentaire sur les épîtres pastorales. Je cite « L'eusebia des pastorales n'est pas seulement une pratique pieuse, selon le sens limité du terme dans le langage courant. Elle englobe toute l'attitude chrétienne approuvée, d'abord un attachement profond à Dieu et à l'évangile reçu, puis le débouché approprié dans la vie quotidienne comme dans la vie culturelle. » Fin de citation. C'est tout cela à la fois qu'on entend par cette grande richesse qui provient de la foi ou de la piété. Ma richesse, c'est d'être attaché à Dieu. Ma richesse, c'est de me sentir proche de lui. Ma richesse, c'est d'être son instrument. Ma richesse, c'est d'être dans la contemplation, mais également dans l'engagement concret. Il est temps de conclure. Qu'allons-nous retenir de cette leçon de grammaire, selon la méthode paulinienne? Nous pouvons y voir le rappel d'une vérité fondamentale. Cette vérité, c'est que la cible de notre vie, c'est de vivre en relation étroite avec notre Dieu, dans un mélange de foi et de piété. C'est cela la cible. C'est là qu'est notre richesse. Pour ceux qui font de la relation avec Dieu un simple concept évanescent, lointain, irrégulier, Paul nous encourage à vivre une vie de piété, faite de prières, d'engagement concret, de partage et de reconnaissance. Pour ceux qui, au contraire, font de la relation avec Dieu une discipline stricte, sérieuse, appliquée mais désincarnée, il nous rappelle que la foi, ce n'est pas que la piété, c'est vivre la vie, pour de vrai, en couleur, et non en noir et blanc. Notre Dieu est celui de la vie, de la joie, de la liberté, avant d'être celui de la discipline et de la rigueur. Que ce combiné entre foi et piété, entre théologie et pratique quotidienne, entre rigueur et liberté, soit au service d'une relation véritable avec notre Dieu. C'est notre prière. Certes, la foi est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a.